Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. Une campagne, c'est fait pour être suivie. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est ce que préconise la langue française. On suit une campagne, y compris dans les villes, ou bien on la bat. Là encore, ne me demandez surtout pas pourquoi. J'ai croisé un homme autrefois qui battait la campagne. Quand je lui ai demandé s'il n'était pas préférable de la suivre, il m'a regardé d'un air désolé en m'expliquant qu'on pouvait battre la campagne sans l'avoir suivie ou suivre une campagne sans la battre jamais. Le français est vraiment une langue étrange. Prenez nos invités, Mathieu Sapin et Morgane Navarro. Non seulement ils ont suivi la campagne, je parle de la présidentielle, mais en plus avec 4 autres dessinateurs, ils en ont fait un carnet dessiné en suivant 12 des candidats en campagne, les observant en train de la battre jusqu'à l'ultime moment où l'un des 12 finit par battre tous les autres, annonçant ainsi la fin de la campagne. C'est aussi passionnant qu'une BD de pure fiction, même si l'on connaît le dénouement avant d'ouvrir le livre et peut-être même justement pour ça. Bref, Mathieu Sapin et Morgane Navarro sont venus nous retrouver en ville pour parler de la campagne et de ses carnets édités chez Dargo. Et ils vont faire, à n'en pas douter, un carton. Pop, 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 c'est parti.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Gaulle.
Bonjour Mathieu Sapin, bonjour Morgane Navarro.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Pop Pop Pop. Dites-moi Mathieu, suivre les gens après François Hollande, Depardieu, Macron, ça va finir par devenir une habitude. Est-ce que vous n'auriez pas un agenda secret derrière toutes ces activités?
Un agenda secret, bien sûr, puisque je fais d'ailleurs partie du ministère secret.
Voilà.
Mais oui, oui. Non, mais cela dit, là, je suis un peu rincé quand même. Donc, je vais peut-être me mettre au vert.
Vous allez vous mettre au vert à la campagne, donc.
Voilà.
Et vous ferez des carnets.
C'est ça.
Des nouveaux carnets de campagne. Et vous-même, vous êtes tout à fait certain de ne pas être suivi?
J'ai pas fait attention en arrivant, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Une mise en abîme de la mise en abîme.
Ouais. Et d'ailleurs, d'une manière générale, c'est une question que j'adresse à vous deux. Il vaut mieux être suivi ou suivre?
Moi, suivre.
Morgane. Moi, je préfère suivre.
Vous préférez suivre qu'être suivi.
Bon, paranoïaque, ouais.
Vous êtes paranoïaque?
Non, non.
Un petit peu.
De temps en temps.
James Ellroy.
Comme James Ellroy est paranoïaque?
Non, non, je ne sais pas pourquoi. Ça me fait penser à James Ellroy. Non, il y a quelque chose. Ouais, le crâne, la moustache, les lunettes, ouais. Non.
Bah écoute, c'est un compliment.
Et puis évidemment, les palmiers sur le t-shirt, ouais. On n'est pas très loin de James Ellroy. Ça fait 2. Vous avez suivi d'ailleurs tous les épisodes de Navarro ou pas?
Non, je crois que j'en ai raté 2.
À propos de suivre, je reste toujours dans cette idée de la poursuite. Je vous rassure, on va pas faire tout l'heure là-dessus. Et d'ailleurs, les carnets de campagne auront-ils une suite?
Alors déjà, nous, on avait beaucoup trop de matière. Notre problème, c'est que comme on voulait que l'album sorte très tôt après la campagne, on a réduit autant que possible la pagination. Il y a quand même 240 pages, mais on en a évidemment bien d'autres, bien plus. Donc si l'album est un carton interplanétaire, peut-être qu'on fera une édition king size.
Très bien. Vous saviez que c'était aussi le titre d'une passionnante émission quotidienne de France Inter, tous les jours à 12h30, juste avant le jeu des 1000 euros.
Oui, tout à fait, bien sûr.
Donc vous n'avez pas peur d'être poursuivi?
Oui, pénalement, c'est vrai que j'avais pas pensé, mais est-ce qu'il y a un S à carnet
dans la version? Bah oui, forcément, il y a toujours plusieurs carnets. James Ellroy. Avant de parler de ces fameux carnets avec Charline, on va parler de vous et de vos parcours respectifs. Mais encore avant cela, on va commencer par un peu de musique. Je vous propose d'écouter ensemble Feeling Good de Nina Simone. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good.
and fly out in the sun. You know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun. You know what I mean? Sleep in peace when day is done. That's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. It's a new day, it's a new life for me.
Feeling Good de Nina Simone en compagnie de Mathieu Sapin et Morgane Navarro qui sont nos invités aujourd'hui. Nous parlerons de leur BD Carnet de campagne dans quelques instants, mais pour l'instant faisons connaissance et en particulier avec vous, mon cher Morgane. Car Mathieu, vous êtes un habitué de Pop Pop Pop, mais vous, Morgane, c'est votre première. Alors, ému, impressionné, tétanisé,
un petit peu,
rien à battre.
Parce que je vous voyais quand j'étais petit à la télé quand même.
Je sais jamais comment il faut le prendre ça.
Bah,
j'aurais pas.
Pourquoi? Parce que ça vous vieillit.
Bah, ça dépend de votre âge.
Je suis pas tout jeune non plus.
Ben voilà, c'est bien ce que je disais. Bon, Morgane, passons à autre chose tout de suite. Vous avez été, semble-t-il, un as du skate. Vous avez envisagé l'architecture avant de revenir à ce qui était votre vocation première, la BD. Ce choix, vous l'avez fait il y a déjà 23 ans. Et 23 ans plus tard, est-ce que vous vous félicitez toujours de l'avoir fait, ce choix?
Oui, complètement. C'est mon truc. C'est ce que je sais faire, c'est ce que j'aime faire. Mmh. Et j'aimais bien l'architecture, hein. C'était sympa, mais... c'était pas ma passion, quoi. Voilà.
Et le skate?
Et le skate, j'en fais toujours.
Ah, c'est vrai?
À 46 ans.
Ah, irraisonnable.
Ça, c'est une. Non, c'est pas raisonnable du tout. Moi, je me casse pas trop de trucs. Là, je commence à me méfier un peu. Je lève le pied, mais j'en fais. Oui, non, en fait.
Bon, alors, la BD, c'est une chose, mais vous ne vous en tenez pas là. Vous avez coécrit Ma vie de courgette. C'est un film d'animation primé au César et créé un blog très marrant, Ma vie de réac, sur le site du Monde, et publié par la suite en BD, là aussi, chez Dargaud. Vous êtes réac dans le fond ou c'est un
énorme
personnage que vous...
En fait, alors, pour être tout à fait franc, c'est... Oui, un petit peu.
Ça amuse beaucoup Mathieu.
Hein. Je pense comme un...
Je pense qu'il a la réponse à la question.
En fait, c'est compliqué. Hein.
C'est compliqué.
En quelques minutes, mais je vais essayer de pas me perdre. C'est juste que c'est une partie de moi-même, ce personnage, qui est cette partie ronchon, toujours opposée à,
c'était mieux avant.
À la modernité. Voilà, un petit peu, c'était mieux avant, mais j'ai essayé d'être un peu plus subtil que ça. Il n'est pas si réac qu'on croit. En tout cas, lui, il ne se revendique pas comme un réac.
Mathieu, commentaire
Non, non, ça m'amuse parce que je savais que ce genre de question allait.
Non, mais ça me va, Mathieu, t'inquiète pas.
Non, tout va bien.
Et vous en diriez quoi, vous qui le connaissez mieux que moi?
Non, non, c'est un être très, très ouvert d'esprit.
Très ouvert d'esprit. Mmh. Avec un petit look, James Ellroy. Messieurs, Stephen Colbert a prouvé depuis longtemps à quel point c'était drôle de jouer les réacs et j'ai une info à vous soumettre à tous les deux. Au Royaume-Uni, on n'a désormais plus le droit de dire d'un homme qu'il est chauve.
Ah oui, j'ai vu ça.
Oui.
Oui, d'ailleurs, c'est
une très bonne chose.
C'est toi qui m'as
dit. C'est dégueulasse.
Considéré comme un préjudice passible de poursuite, ça vous inspire quoi, ça?
Bah, comme tous les deux, on est peu chevelus, quand même.
C'est pas moi qui l'ai dit.
On va peut-être nous respecter enfin.
Voilà. Ouais, c'est plutôt une bonne chose.
Non, c'est n'importe quoi.
C'est n'importe quoi. Mathieu,
bah, c'est quoi l'étape d'après? Les gros nez, par exemple. Moi, j'ai un nez qui n'est pas petit. Et je pourrais m'offusquer.
On n'est pas non plus ce qu'on appelle un gros nez, Mathieu.
J'ai un nez qui est... Voilà,
qui occupe une certaine place, mais... Non, alors la prochaine étape, c'est le nez, c'est ça?
Par exemple.
On va rigoler avec les nez. Très bien. Bienvenue dans le monde moderne. Mathieu, vos séries Sardines de l'espace et Super Murgeman, entre autres mille choses, ont prouvé votre amour de la fiction et du loufoque. Mais depuis quelques années, vous devenez aussi un chroniqueur en tous les cas, un croqueur du réel. Vous avez notamment publié chez Dargo Gérard, 5 années dans les pattes de Depardieu. Pouvez-vous nous rappeler rapidement cette aventure? Comment ça s'était goupillé, cette histoire?
Ah, bah, goupillé, c'est-à-dire que j'ai rencontré Gérard lors du tournage d'un documentaire en Azerbaïdjan. Mm-hmm. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un d'incroyable et impossible à résumer en quelques pages. Mm-hmm. Et je me suis dit que là, il y avait un sujet qui était inépuisable et j'ai passé 5 années donc à le suivre dans tous ces états et donc à faire cette bande dessinée qui est une tentative, j'ai bien une tentative de portrait.
Ça, c'est un genre de projet qui pourrait vous séduire, vous, Morgane?
Eh ben maintenant, oui. En fait, avant de faire Carnet de campagne, j'avais pas de projet comme ça. Mm-hmm. Et effectivement, j'y ai pris goût. C'était vachement intéressant. Déjà, le premier truc qui est hyper intéressant pour nous dessinateurs de BD, c'est qu'on sorte chez
oui,
nous.
Oui, c'est donc, déjà pas mal ça.
Ça, c'est pas mal parce que souvent, quand on fait un album, on passe des fois un an, enfin 6 mois, un an à gratter dans sur sa table à dessin, quoi. Ouais. Donc là, c'est... Et moi, j'ai pensé vachement à ça, à me dire comment je pourrais faire des trucs. Déjà, je fais des interventions scolaires, des machins comme ça, ça me fait sortir, mm-hmm. j'aime bien. Et là, carrément, c'était l'aventure, quoi.
Prendriez qui comme...
Ah, si j'avais à suivre quelqu'un? Ben, par exemple, Hunter Thompson, c'est un écrivain qui...
Vous allez avoir du mal à le suivre.
Qui fait... Ouais, ben, il est mort, mais je le suivrai...
Jusque dans la tombe.
Mais alors, à quelqu'un de vivant, Mathieu Sapin, voilà, c'est ça que j'ai fait.
Mathieu Sapin. Bien. Ah bah voilà, ce serait un vortex, non?
Oui,
vous
c'est ça.
Vous étiez à votre tour suivi pour qu'on raconte.
Mais peut-être que tu pourrais me suivre aussi, comme ça ferait une...
Ou vous suivez mutuellement.
Voilà, on va partir en vacances ensemble.
Ça fait déjà 2 tomes. Bon, puis évidemment, on va en reparler, ces carnets de campagne qui ne sont pas du tout votre première expérience en politique, Mathieu, puisque vous avez déjà croqué des campagnes, mais vous en avez aussi tiré ceci.
Tiens, aide-moi, je veux pas de palmiers sur les photos de Pascal.
Donc quoi, faut les couper?
Non, on va plutôt baisser les stores.
Vous êtes le nouveau stagiaire?
Non, je suis son nouvel assistant.
Agnès!
Mais qu'est-ce que tu fous taire?
La nana, elle a eu un
problème. Mais me raconte pas ta vie, je m'en fous! Espèce de cocole.
J'aime pas trop quand on m'appelle gogole.
Dans ma bouche, c'est affectueux.
Ah, il s'agit du film Le Poulain avec Alexandra Lamy que vous avez écrit et réalisé en 2017 autour des rouages d'une campagne. Vous avez ainsi réalisé votre premier long métrage. C'est très très différent d'un album de BD.
Oui, ça n'a rien à voir. Mais moi, j'ai adoré le travail d'équipe. Ça, c'est super de pouvoir s'appuyer sur des talents, des propositions. Alors que quand on fait de la bande dessinée, on est seul avec soi-même et on connaît un peu ses limites au bout d'un moment. Mais non, juste sur l'extrait qu'on vient d'entendre, ça m'a amusé parce que quand elle dit, quand je te dis, je t'appelle Gogol, mais dans ma bouche c'était affectueux. Je sais pas si vous vous souvenez, mais pendant la campagne dernière, Emmanuel Macron, quand il était en déplacement en Alsace, il a dit aussi à propos d'un type qu'il avait pas toute sa tête, ou je sais pas quoi. Ouais. Et après, il s'est justifié en disant non, mais c'était affectueux. Mm-hmm. Ou non, quand il parlait de emmerder les antivax, tu vois, dans ma bouche c'était affectueux. Donc je me suis dit, mais c'est une citation.
Vous avez une influence aussi profonde sur les politiques.
Bien sûr.
Et alors vous, Morgane, qui avez Mathieu pour modèle d'une certaine manière, ça donne envie de passer au cinéma? Peut-être un film sur
on verra. J'ai des projets. J'ai participé d'ailleurs j'ai un pied dans le cinéma quand même, avec le cinéma d'animation.
Oui, d'animation.
J'ai participé au scénario de
Nathalie Courlette.
Ah oui, c'est vrai. Ah, oui. J'écoutais pas.
Regardez ces textos.
Et puis là, j'en ai en cours en ce moment.
Très bien. Bon, on sait un peu mieux à qui on a affaire aujourd'hui. Messieurs, dans quelques instants, nous serons rejoints par Charline Roux pour parler avec vous de ces fameux carnets de campagne qui viennent de sortir chez Dargo. Mais juste avant, je vous propose d'écouter ensemble un morceau d'Al Green, parce que c'est génial. Le titre, c'est I'm a Ram. Ah bah pardon, on est à l'antenne, oui. C'était Al Green, I'm a Ram.
Vous m'autorisez à me lever avant même
oui,
que j'ai dit
sûr.
Bonjour, parce qu'il y a notre invité qui a débranché.
Ah oui, mais ça me ruine mon intro. Bon, ouais, car oui, voici que nous rejoint celle qui nous vient des hautes terres de Picardie, là où le mot campagne prend tout son sens, quelle que soit la saison. Bonjour Charline.
Et bonjour.
Merci d'avoir rebranché le micro.
Mais non, mais j'ai cru qu'il y avait un problème de branchement.
C'était le casque de Mathieu ou de Morgane, je ne sais pas, de Morgane.
Désolé.
J'aime ça, oui. Alors, ces carnets de campagne, refaites-nous un peu l'historique, je vous prie.
Archi nul, cette campagne présidentielle. Ben ça, c'était avant de se plonger dans les coulisses dessinées de la bataille pour la plus haute fonction de l'État. 6 gonzos ont croqué les péripéties traversées par 9 candidats, mais comme il y en a un peu plus, je vous le mets quand même, ça fera 12. Une mission sous le haut patronage de vous, Mathieu Sapin, chargé de suivre le président candidat et accepté par Louison, Dorothée de Montfred, Coco Pelo, Lara et vous, Morgane Navarro, chargé de suivre Marine Le Pen et le Z. Mission pas impossible, puisque vous l'avez fait, mais était-ce pour autant une mission dangereuse ?
Non, dangereuse. Si ça aurait pu, il y a eu des moments où ce qui était, enfin, je parle pour moi. Il y a eu ce moment à Villepinte que je raconte dans la BD où donc c'était le premier meeting de Zemmour où il y a eu cette bagarre que, enfin, c'est un peu plus qu'une bagarre même.
Correction.
Que,
des chaises ont volé.
Que tout le monde a vu et il y a des chaises qui ont volé, etc. Et j'ai vu ça. J'étais un peu loin à ce moment-là parce que j'étais devant la.
Comme par hasard.
Ouais, je sais me placer. Non, mais j'étais près de la scène pour dessiner les gens de face et tout. Puis j'ai vu au loin les gens qui couraient de partout. Alors, les chaises volées, je sais pas trop, mais j'ai vu des gens qui couraient, une agitation de folie. Et j'ai vraiment eu peur à ce moment-là. Ouais. Je m'attendais à quelqu'un sortir entendre des coups de feu et tout. Enfin, je me suis fait tout un trip. Et puis, c'était bien pour la BD d'ailleurs. Et je suis parti un peu sur le côté. Voilà, j'ai rien eu.
Mathieu, il a eu des petites frayeurs?
Oh non, moi c'était assez tranquille. Ma seule frayeur, c'était dans l'avion présidentiel de pas vomir, comme à mon habitude. Mais sinon, tout s'est bien passé.
Vous avez réussi?
Ben ouais, mais il y a un petit moment où quand même on se dit ah.
Parce que vous étiez très content.
Et voilà, exactement.
Pas maintenant. Bon, avant d'aller plus loin, je voudrais savoir qui a décidé de suivre qui. Vous avez tiré ça à la courte paille ou bien c'était en fonction de vos affinités respectives?
On donne quelle version?
La vraie,
la vérité. Mathieu nous a appelé. Enfin, en tout cas, moi, j'ai reçu un coup de fil qui me disait.
Cette mission, si vous l'acceptez.
Voilà, c'est exactement ça.
C'est bien parce
Morgane,
qu'il fait le geste
du téléphone
en même temps qu'il nous dit.
J'ai pensé à toi pour suivre Marine Le Pen, si tu le veux bien. Et voilà, j'ai réfléchi un peu, puis j'ai dit oui parce que ça m'a semblé. Enfin, venant de Mathieu, je me suis dit, il sait ce qu'il fait. Il y a un truc. ce mec.
Pourquoi pensiez-vous donc à Morgane?
Alors, on s'y est pris très tôt. C'était il y a presque un an que j'ai appelé Morgane. Parce qu'il y avait une certitude dans cette campagne à venir, c'était que Marine Le Pen serait au second tour. Mm-hmm. Tout le monde l'annonçait, c'est ce qui s'est produit. Mm-hmm. Donc je me suis dit, ça c'est quand même le gros morceau. Qui va être assez barjot pour accepter de suivre Marine Le Pen? Merci. Et Morgane avait déjà fait un album, il n'y a pas longtemps, sur une candidature imaginaire de Cyril Hanouna.
Oui.
Il a suivi la campagne imaginaire de Cyril Hanouna. Donc je me suis dit... Bon, il est. Pourquoi pas? Allons-y. Et donc je lui ai proposé en me disant, il va m'envoyer bouler. Et puis non, parce qu'il s'est dit que je savais ce que je faisais, ce qui est un immense malentendu. En fait.
Et donc vous avez choisi dès le départ Macron.
Alors je me suis dit Macron. Ce qui est bien, c'est que j'avais déjà des accès parce que je l'ai déjà suivi pour des BD précédentes. Et puis surtout, comme il s'est produit ce que j'imaginais, c'est-à-dire qu'il s'est déclaré très très tard, ça aurait pas été passionnant pour quelqu'un qui débarquait quoi. Donc Macron, ça c'était pour moi. Et après, c'est une discussion. Il y a Coco Pelo, lui, il avait fait une BD qui s'appelle Palais Bourbon sur l'Assemblée, donc il connaissait un peu tous les partis. Ouais. Je me suis dit, la droite, c'est pas mal parce que c'est très compliqué. Il y avait la primaire, il faut suivre plein de gens en même temps en espérant suivre le bon cheval. Et puis Louison,
la bonne jument,
la bonne jument, exactement. Et puis Louison, elle, je l'avais croisée plusieurs fois sur le. Elle suivait François Hollande, elle connaissait bien la gauche, donc c'était assez évident. Lara, c'est toi, Morgane, qui m'a parlé de lui parce qu'ils sont copains, c'est des potes. Et puis Lara dessine dans le Canard Enchaîné. Enfin bref, ça, je lui ai proposé de suivre Mélenchon. Et puis Dorothée de Montfred. Elle est très connue dans la jeunesse, elle fait beaucoup de livres jeunesse et je lui proposais de suivre les Verts en me disant que ce serait peut-être moins rock'n'roll, quand même, c'était marrant. Ouais.
Alors de fait, vous avez tous les deux été bien servis, si je puis dire, puisque les candidats que vous avez donc choisis ont été jusqu'au round final, plus de matière pour vous. Et une ultime péripétie pour vous, Morgane, que je ne dévoilerai pas ici, au moins que vous ne choisissiez de la raconter.
Ah, quand même.
Ah bah alors, je vous laisse la raconter, quand même.
Bah, j'ai eu la chance, ou je sais pas...
Posez vos mots.
Comment on peut dire, l'occasion de me rendre chez le papa Le Pen, Jean-Marie Le Pen, chez Janie, sa femme, à Saint-Cloud, dans sa maison, pour regarder les résultats du deuxième tour. Voilà. Et c'est, en fait, j'ai été invité par un journaliste de Libération avec lequel j'ai beaucoup... assez de temps en fait pendant la campagne. Voilà, il m'a fait ce cadeau à la fin.
La surprise.
Mais vous étiez donc persuadé que ces deux candidats là iraient au bout. Il n'y a eu aucun moment où ça a vacillé aussi.
Moi, il y a un moment où je pensais vraiment que Valérie Pécresse avait ses chances, comme il y a un moment où je croyais sincèrement que Jean-Luc Mélenchon allait faire la surprise d'être au second tour. Donc non, il y avait quand même ce suspense, mais c'est-à-dire qu'au départ il y avait ce match annoncé qui était déjà presque prévu de longue date, et Le Pen Macron, et puis c'est ce qui s'est produit, mais avec des oscillations pendant la campagne. Mais le bouquin, finalement, si on est très honnête, il raconte plus le parcours de 6 dessinateurs et dessinatrices bracassés.
C'est ce qui en fait l'intérêt
de suivre la campagne, la campagne de ces...
Oui, ça cherche pas à être objectif ou et la vie des auteurs est conto. D'ailleurs, c'est ce qui s'apparente à ce qu'on appelle le gonzo journalisme.
Exactement.
Et là, je vous vois réagir.
Ah oui.
Dans Thompson.
Eh ben oui, parce que j'ai fait une page d'ailleurs dans la BD à ce sujet. Parce que Hunter Thompson, c'est celui qui a écrit Las Vegas Parano, Fear and Loathing in Las Vegas, et qui était, le Gonzo, c'est un journalisme où justement le journaliste il racontait aussi ce qu'il vivait en dehors du sujet, quoi, dans sa chambre d'hôtel, où puis il prenait beaucoup de drogue, etc. Donc c'était assez spectaculaire ces livres quand il suit la campagne de Nixon et qu'en même temps il se bourre la gueule avec l'équipe au comptoir.
Mais justement, Morgane Navarro, Mathieu Sapin, où commence le gonzo journalisme? Enfin, où est-ce que ça commence, où est-ce que ça s'arrête dans ce genre de démarche?
Alors d'abord, il faut dire que le livre, c'était un pari. C'est-à-dire qu'on s'est lancé là-dedans, on était sans filet parce qu'on avait une date butoir et puis on savait pas si on aurait les accès, qu'est-ce qu'on allait raconter, si on allait s'entendre aussi, parce que la plupart des protagonistes ne se connaissaient pas avant qu'on commence ce road trip. Et donc le gonzo, oui, c'est cette manière de raconter les choses de façon très subjective, en assumant nos pensées, nos moments de lose aussi, nos tentatives foireuses pour essayer de suivre tel ou tel truc, mais aussi les moments heureux. Et c'est ça. Et ce qui m'a étonné d'ailleurs, c'est que la plupart des QG de campagne ont accepté le jeu, d'accueillir des dessinateurs, dessinatrices au sein de leurs équipes.
Sachant que les à côté, si je peux me permettre, les à côté, les choses qu'on vit en marge, je sais pas, quand on va au restaurant et qu'on. Enfin, tout ce qu'on vit à côté, même en famille, disent des choses aussi de la campagne.
Bien sûr.
Mais vous, par exemple, on suit vos questionnements à de multiples reprises dans le récit. Vous vous demandez ce qu'est la bonne distance, celle qui est nécessaire pour obtenir des infos, mais celle qui est aussi nécessaire pour ne pas être taxé de sympathie à l'égard de votre sujet.
Ah oui, cette inquiétude. Ouais. Oui, parce que je me suis dit à un moment... est-ce qu'il faut quand même que... Parce que j'avais une façon de faire un petit peu d'anthropologue, un petit peu à regarder ce qui se passe autour de moi. Tiens, c'est le cirque, je suis au zoo et tout. Et puis je me suis quand même dit, attends, il faut peut-être un petit peu... puisque c'est subjectif, essayer d'en dire un peu sur mes états d'âme, etc. Sur ce que je ressentais à ce moment-là. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Voilà, le plus sincèrement possible.
Ouais. Mathieu Sapin, Morgane Navarro, on va continuer à parler de vos carnets de campagne publiés chez Dargo dans quelques instants, mais je vois qu'il est 16h30, 31 même, c'est l'heure des Pop News.
Après avoir été un film en 1996 sous la direction d'Olivia Sayas, Irma Webb devient une série en 2022 sous la direction d'Olivia Sayas. C'est dans le rôle de la comédienne expatriée venue en France pour jouer le rôle d'Irma Webb dans un remake du classique du cinéma muet Les Vampires. Après Maggie Cheung au ciné, voici Alicia Vikander dans nos télés.
I'm so sick of being the superhero.
But blockbusters let you make movies you love.
I'll be Irma Webb. This is the part she's been dying to play.
I told her not to get involved with those people. What else can I do?
How's it been going? You happy?
Mira, I'm never happy.
Who would have thought that you would end up working with him?
Renee's process can be confusing.
Ne me touche pas! Ne me touche pas! Vous m'énervez là!
Et dans le rôle du réalisateur énervé, Vincent Macaigne, au casting également Tom Sturridge, Jeanne Balibar, Vincent Lacoste, Hippolyte Girardeau, Nora Hamzaoui et Antoine Reinhardt. Rien que ça, et Irma Vep, ça débute le 7 juin sur OCS.
Après Les Enfants de la Mer, voici un nouvel animé signé Ayumu Watanabe. Son titre, c'est La Chance sourit à Madame Ninuko, et dans la bande-annonce, on découvre une jeune fille qui courine. Mais alors, qui est Ninuko ?
Voici Nikuko, c'est ma mère. Elle n'a jamais eu beaucoup de chance avec les hommes.
Les journées ordinaires sont les meilleures de toutes !
Mais partout où elle va, elle reste fidèle à elle-même.
Je vais te montrer mon endroit secret.
J'adore cette petite ville.
Ouais, il te plaît, c'est ça ?
Non, j'avais juste oublié comment il s'appelait. J'ai pas envie de partir.
Nikuko est une mère célibataire tout en joie de vivre, un véritable outrage à la culture patriarcale japonaise, mais un jour un secret ressurgit du passé. La chance sourit à Madame Nikuko, ce sera le 8 juin dans les salles.
Les Smashing Pumpkins s'apprêtent à lancer une grande tournée des stades et pour en parler, ils sont passés par le plateau américain de l'anglais James Corden. L'occasion pour Billy Corgan & Co. de jouer en live un oldie but goodie, titre de leur album Siamese Dreams, le cru 1993, Today. En attendant d'éventuelles dates de concerts hors territoire américain, on vous met la vidéo sur le compte Twitter 3615 Pop Pop Pop.
France Inter. Pop Pop Pop. Antoine de Gaulle.
Oui, c'est moi.
C'est Nikuko.
Oui, Madame Nikuko, très bien. Bravo, Charline. Morgane Navarro, Mathieu Sapin, nous sommes de retour avec vous pour parler de votre BD document Carnet de campagne. Alors, en observant tout ce cirque médiatique pendant le temps de la campagne, est-ce que, quelles que soient vos convictions profondes, ça finit par faire naître en vous une forme d'empathie vis-à-vis du sujet que vous étudiez, ou est-ce que, comme pour vous, Morgane, le recours au calmant s'impose assez rapidement?
Alors, les calmants, j'avais mal à la tête et c'était pas des calmants, c'était des trucs pour le. J'avais dans mon sac des médicaments pour le dos et qui restaient comme ça au fond de mon sac. C'est tout ce que j'ai trouvé et puis j'ai dit bon, allez, pensé à Hunter Thompson, j'ai dit allez, oups. Et puis voilà, non, bah ça m'a détendu, hein, ça a marché.
Ça vous a très largement détendu, j'ai l'impression.
Ouais,
si on prend vos dessins.
J'en ai fait un peu trop, il y a un petit peu
d'imagination. C'est un mur relaxant,
aussi,
non, plutôt, hein, plus
oui,
qu'un.
C'est ça.
Et vous, Mathieu ?
Ben moi, j'essaie de combattre cette truc qui, quand on croise des animaux politiques, comme ça peut être aussi bien Jean-Luc Mélenchon qu'Emmanuel Macron ou bon Marine Le Pen, je l'ai jamais croisé, mais c'est des gens qui sont tellement exposés, tellement magnétique, et puis tout le monde les regarde, tout le monde se comporte de manière bizarre autour d'eux, que c'est très difficile de les regarder de façon normale.
Neutre.
On est tout de suite, on a une espèce de truc un peu, surtout quand ils viennent vous voir, parce que c'est des gens qui vont au contact, qui viennent serrer les mains et tout.
Je provoque donc, ça dans la vie de moi-même.
Oui, mais j'ai remarqué ça.
Oui.
Et donc, moi j'essaie de rester normal, et c'est très compliqué.
C'est vrai que moi j'ai un respect infini depuis que je vous
parle. Mais je sais. Très
on imagine les candidats très très regardants sur leur image. Est-ce qu'ils ont tous été satisfaits de la manière dont vous les avez dessinés ?
Aucune idée parce qu'on n'a pas du tout de retour ni de réaction.
Parce qu'on voit certains des membres des équipes qui viennent regarder sur votre épaule la manière
Alors,
dont.
On peut citer Coco Pelo quand même.
Parce qu'il a
suivi Valérie Pécresse et ça s'est pas super bien passé à la fin. Il a montré dans un acte un peu comme ça, il s'est dit allez, on y va, rock'n'roll. Il a montré les pages de Valérie Pécresse à Valérie Pécresse. Mm-hmm. Et c'est pas passé comme une lettre à la poste. Et le lendemain, il a eu des pressions, mais on a tenu bon et les pages sont dans l'album. Mais ce qui est plutôt bon signe quand on sent que justement les pages dérangent, c'est ça.
Elle n'aimait pas la représentation qui était faite d'elle ou bien les circonstances particulières choisies.
Il a eu l'opportunité de raconter des moments
du backstage.
Mm-hmm. Bon, pas à son avantage, faut dire que sa campagne était loin d'être une campagne basée sur la win. Mmh. Et donc, forcément, personne n'a envie de montrer ça.
C'est ce qu'on appelle le fameux off.
Voilà.
Ouais. Mais en général, ils étaient quand même très peu intéressé en fait. Ouais. Enfin, moi j'ai été étonné que même les équipes s'inquiètent pas trop de ce qu'on était en train de faire. Mmh. Quoi. C'était, mmh. Ils nous ont pris un peu pour des journalistes étranges, quoi. Je pense.
Ouais, parce qu'il y a tellement autour,
il se passe tellement de
bruit,
chose que...
ça va dans tous les sens qu'ils peuvent pas non plus.
Non, mais la position du dessinateur est
réglée. On est là, sympa.
Et il faut aussi préciser que nous, on avait annoncé tout de suite que le bouquin sortait après la présidentielle. Ouais, donc l'enjeu n'était pas le même. Ouais.
Mmh. On voit donc la campagne et ses off, mais on voit aussi vos off perso. Vous le disiez, réunion des six. Mmh. Morgane, vous dessinez aussi quelques éléments de votre vie privée, notamment l'annonce chez vous, du candidat que vous alliez suivre. Est-ce que vous avez appliqué la même rigueur journalistique, on va dire, à vos mises en scène perso qu'au suivi des candidats? Ou est-ce qu'il y a une partie peut-être plus romancée?
C'est très honnête, hein, je pense. Vraiment, moi, j'ai pas raconté ma vie de famille, mais j'ai raconté des moments de discussion entre nous, et qui sont quand même...
C'est fidèle,
Donc sinon, parce que si on rompt ce espèce de contrat psychologique avec le lecteur en lui disant, on raconte un peu ce qu'on veut, il n'y a rien de plus facile avec la bande dessinée. Dès que le lecteur n'y croit plus, c'est fini.
Ouais. Mmh.
Et puis, il y a tellement de matière dans ce qu'on vit, tout simplement, que c'est pas la peine d'en rajouter, en fait. Ouais. Tout est...
Il faut dire qu'on a une bande... Je trouve que le casting de l'équipe est assez marrant déjà. Il y a des personnalités, des physiques, on est tous assez complémentaires, assez différents.
Mmh. Et c'est bien
ça, j'aimerais bien qu'on ait des Playmobil à notre effigie. J'ai proposé ça hier parce que
ou les Playmobil ou les Funko Pop, c'est comme vous voulez.
Figurine pop.
Jean-Claude Playmobil nous écoute, donc je pense que c'est un souhait qui peut se réaliser très facilement. Dites-moi tous les deux, Mathieu, Morgane, comment s'organise le narratif d'un livre comme ça, comme disent les communicants? Est-ce qu'on décide par exemple de reprendre les codes du feuilleton?
Parce que là,
j'ai six histoires.
C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais toutes ces séquences, parce que pour reprendre aussi des mots utilisés dans la politique, sont montées les unes à la suite des autres. Mmh. Et moi, je pensais le bouquin comme une série télé où on passe vraiment d'un personnage à un autre et qui crée une forme de suspense. Et donc, il y a des ruptures où, bien sûr, on joue sur ces codes de narration. Ouais.
Oui, parce qu'on s'envoyait nos planches aussi en direct pendant qu'on les faisait au fur et à mesure. Donc, du coup, on pouvait rebondir sur l'histoire le chapitre de l'autre, comme ça.
D'accord.
Alors, puisqu'on parle communicant, causons verbiage aussi, et de ce côté-là, avec la campagne En Marche, Mathieu Sapin, vous avez été servi en format de coordination, en déconflictué, en output, en cornerisation par les polémiques de l'écosystème médiatique. Est-ce que c'était des dialogues faciles à travailler?
Oui, alors il y a des mots, j'ai toujours pas compris ce que c'était. Moi non plus. Mais c'est vrai que Stanislas Guérini est très spécialiste de ce langage un peu méta, un peu curieux. Mais il y a une forme de poésie, moi j'aime bien.
Mmh. Enfin, pour dire les choses simplement, est-ce que vous avez réussi à déconflictuer sans trop commériser, tout en gardant quand même un certain output?
J'espère. Mmh. J'ai essayé en tout cas.
Vous aussi, Morgane?
Bien sûr.
Tout à fait. Non, mais en fait, si on parle si on parle aussi de déconflictuer, c'est qu'un élément surprise et tragique s'est invité dans la campagne. Mathieu Sapin, vous étiez aux premières loges. Comment est-ce que vous avez réagi aux prémices de la guerre qui couvait?
Ce qui est curieux, c'est que quand on suit une campagne, on suit bien sûr le réel, mais c'est un réel qui essaye d'être scénarisé. Fallait que les équipes essayent de raconter. Ils essayent de tordre la réalité pour que ça aille dans le sens de ce qu'ils espèrent. Et ça, personne avait vu la guerre en Ukraine arriver, en tout cas en France. Et même moi, qui au début décembre, je suivais Emmanuel Macron. Il était à l'époque président, il n'était pas encore candidat. Il parlait à un moment donné, on est le 7 décembre, je crois, d'un coup de fil qui doit passer à Biden et à Vladimir Poutine à propos de l'Ukraine. Et sur le moment, je me dis Et puis, c'est quelques mois après, que je me rends compte qu'il y avait déjà cette menace, que c'était une vraie menace. Et quand le truc arrive, on se rend compte que personne n'avait prévu ça. Et souvenez-vous, sur le moment, tout le monde se demandait qu'est-ce qui va se passer. Moi, j'avais des copains qui m'appelaient pour me demander si les chars russes allaient arriver dans la semaine, s'ils devaient quitter Paris ou quoi. Et là, on se dit... Le truc part dans une direction qu'on n'avait pas du tout prévue. Et puis, évidemment, on s'en empare et on va l'intégrer au récit.
Alors, de vous six, Mathieu est le plus expérimenté en la matière dont nous parlons aujourd'hui. Mais certains disent même le parrain.
Ah bon?
Je ne sais pas. Quel genre de conseil vous a-t-il donné, Morgane?
Le tramadol.
Il nous a bien détendu, ouais. Parce que non, c'est vrai que c'était un plaisir de travailler avec Mathieu parce que il était très rassurant. Effectivement, moi, j'y suis pas allé sans appréhension. Bon, il nous disait souvent, de toute façon, c'est pas grave, t'y vas, tu tentes ce que tu peux, ce que tu veux, et puis tu auras un truc à raconter, tu verras. Voilà. Et je trouvais ça bien.
Le résultat est absolument parfait, Mathieu Sapin. Oh. Morgane Navarro, cette BD à 12 mains, Carnet de campagne, est sortie la semaine dernière chez Dargo. C'est un travail passionnant, instructif et drôle que nous recommandons chaudement à tous. Vous restez avec nous, car dans un instant, nous allons examiner vos propositions en matière de pop culture. Ce sera votre pop list, mais tout de suite, je vous propose d'écouter ensemble ce titre d'Arlo Parks, Softly. Qu'on aime beaucoup à Pop Pop, et ce titre c'était Softly. Vous écoutez Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Alors, évidemment difficile de ne pas reconnaître le générique de Twin Peaks, la série mythique de David Lynch. Mathieu, c'est le son que vous avez choisi pour illustrer la pop culture, et je sens, quelque chose me dit que vous êtes un fan de Lynch.
Oui, gros fan de Lynch, tout à fait. C'est pas voilà comme beaucoup d'autres, mais c'est vrai que je trouve que c'est quelqu'un qui a vraiment réussi à sur la durée conserver une patte qui est vraiment à lui, et qu'on peut tout de suite reconnaître un film de Lynch. Et donc Twin Peaks, la série, moi je l'ai découvert à l'époque en VHS, parce que je sais plus sur quelle chaîne ça passait, mais je l'avais en VHS. Et ça marque, ouais. Et je me suis tout retapé quand est sorti la saison 3. Et la musique, là, dès qu'on l'entend, il y a un truc...
C'est Badalamenti ?
Ouais.
Bien, c'est avec ce son que nous démarrons votre pop list, messieurs. Jingle.
Alors au menu, un livre, un film, une musique et une série que vous appréciez en ce moment. Nous avons fait un petit mash-up de vos choix. Mathieu Sapin, je commence par vous. Votre livre du moment, c'est Le Motel du Voyageur de Gay.
Du Voyeur.
Du Voyeur, pardon. Le Motel du Voyeur de Gay Talese, aux éditions du Sous-Sol. Et c'est une histoire complètement folle, effectivement, de voyeur.
Oui. Complètement. Je crois être en possession d'informations importantes qui pourraient vous être utiles. Ainsi débute la lettre que reçoit Gay Talese le 7 janvier 1980. Une lettre signée Gerald Fuss qui lui explique avoir acquis un motel dans l'unique but d'y observer sa clientèle. Le propriétaire voyeur a épié et pris des notes pendant près d'une dizaine d'années. Talese décide de le rencontrer et il n'est pas au bout de ses surprises.
Alors Mathieu, expliquez-nous un peu ce choix. Vous aimez bien les histoires de voyeurs, donc.
Bah oui, je pense qu'il faut assumer à un moment donné. Et c'est vrai que quand on, même dans le carnet de campagne, on est dans une attitude quand même un peu voyeuriste. Total. On est dans les coulisses, on observe, on essaie de traquer des trucs. Et là, cette histoire du motel du voyeur, elle est complètement dingue. Le type, il a construit, enfin, il a adapté un motel pour satisfaire ses pulsions de voyeur. Mmh. Et donc, il a aménagé le grenier avec au-dessus de chaque chambre une fausse grille d'aération par laquelle il mate les gens. Et mais pendant des années. Et il consigne ça dans un carnet. Et à lire, c'est assez fascinant. Ouais.
Parce que ça va assez loin, les cas qu'il observe.
Ouais, c'est trash. Hein. Mmh.
C'est donc une histoire vraie.
Oui, ce qu'on n'a pas dit, mais c'est une histoire vraie, bien sûr.
C'est important. Morgane Navarro, je me tourne vers vous. Je fais le son du tabouret. Votre film, c'est Le Fanfaron, Il sort Passo. C'est un film de 1962 de Dino Risi, avec Jean-Louis Trintignant et Vittorio Gassman. Vous ne l'avez pas fait exprès, mais c'est un de mes films préférés, figurez-vous.
Oui. Mais moi aussi.
Il y a de quoi.
Bah oui, il y a de quoi.
C'est génial.
Charline, de quoi ça parle?
Deux jours de fantasque randonnée entre un méditerranéen très en verve et charmeur et un étudiant en droit studieux timide et complexé.
Ah bah oui, tu me rejoins au bar?
Au fait, dis-moi, cette fille, tu lui as jamais parlé?
Si, une fois, en revenant de la fac.
Une fois?
Oui.
Ah, t'es vraiment un sauvage, toi.
Par ici. Moi, les femmes, c'est comme les truffes pour les cochons. Hello, darling!
Là, t'as un ticket.
Moi?
Mais qu'est-ce que je te le dis?
Je suis là absolument par hasard.
Un monument de la comédie italienne qui gagne à être vu évidemment en VO. On perd un petit peu là, au passage. Et Morgane, c'est un monument grinçant. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce fanfaron?
Grinçant, j'y vois aussi beaucoup de jouissance. En fait, il y a ce personnage joué par Vittorio Gassman qui est un peu au début du film, on se dit waouh, ouais, c'est génial, le mec il brûle la vie par les deux bouts, mais il a tout ce qu'on voudrait, c'est-à-dire il va vite en voiture, il parle aux femmes, à toutes les femmes, machin. Il rencontre, il mène sa barque, quoi. Mais et on se rend compte que,
fait, puis
rencontre, il rencontre, pardon,
un hors-bord plutôt.
Ouais, plutôt. Ouais. Il rencontre parce qu'il s'arrête jamais. Il sort le passo, ça veut dire il double tout le monde, il brûle tous les feux, etc. Donc ça fait fantasmer un peu. Et puis il rencontre ce personnage joué par Jean-Louis Trintignant qui lui est plutôt réservé, etc. Donc en fait on se trouve toujours, je pense, entre les deux personnages, c'est-à-dire ce personnage qui est plutôt qui avance dans la vie un peu à pas de loup, mais avec peut-être aussi une frustration. Il voudrait être comme l'autre qui arrive à tout lui réussit. Mmh. Et puis le film arrive à nous emmener plus loin que ça, et on se rend compte que c'est pas si simple et que c'est aussi difficile. Enfin, qu'il n'y a pas de position parfaite, et puis que voilà, il y a un entre-deux comme ça qui est
authentique chef-d'œuvre que ce fanfaron. Exactement. À regarder de toute urgence. Mathieu Sapin, je me retourne vers vous. Votre série du moment, c'est Parlement de Noé Debré sur France TV, que nous avons reçu ici même avant-hier.
Ah, c'est pas
qu'avant-hier, pour en parler, oui. Et alors, Charline, pour ceux qui n'étaient pas là lundi.
Une série dans laquelle on suit la vie mouvementée de Samy, Xavier Lacaille, jeune assistant parlementaire au sein d'une importante institution, au fonctionnement aussi opaque qu'absurde parfois.
En fait, ton boulot, c'est de proposer des changements à cette loi.
Hello, Michel Spetlin will be taking care of that report. Thank you.
Mais qu'est-ce que vous nous avez fait, mon pauvre Sam?
On peut pas aller se renseigner pour voir de quoi il s'agit.
Non, ça, on peut pas faire.
Et là, ça devient assez simple, puisque le compromis F, qui modifie le paragraphe 13, est composé de l'amendement 45. Naturellement, l'amendement 13 ne portait pas initialement sur le paragraphe 13.
Ouais.
Décidément, ça vous plaît, la comédie politique, non?
Oui, Noé est un ami et surtout un garçon bourré de talent.
Qui a travaillé sur Le Poulain.
Et on s'est rencontrés, c'est lui qui a écrit avec moi Le Poulain. Et donc, je suis vraiment très admiratif de cette série qui était un truc très compliqué sur le papier.
Sur le papier, difficile à vendre.
Voilà, à monter et qu'il a réussi. Et je suis heureux pour lui parce que voilà, les retours sont super positifs. Et voilà, donc je trouve ça voilà, super.
Une série à regarder, c'est diffusé où déjà ?
France 5 et France TV/, je crois.
Le Parlement, oui. Excellent, c'est la deuxième saison qui démarre. Enfin Mathieu, j'ai pas besoin de me tourner, enfin je le fais quand même. Vers vous, vous gagnez aussi le tirage au sort pour le choix du morceau. Tirage au sort réglementaire en présence d'un huissier, bien sûr, je le rappelle. C'est Nouvelle-Orléans, un titre de La Femme que nous allons écouter. Alors pourquoi ?
Pourquoi la femme ?
Ah oui, pourquoi la femme ?
Parce que moi, quand je travaille, j'écoute soit pop ou d'autres émissions de radio, soit de la musique. Et la femme, j'écoute souvent parce que je trouve ça entraînant, bien écrit, bien. Enfin, c'est super. Même je suis pas un grand musicien, mais c'est juste que j'aime beaucoup quoi.
Morgane, vous avez posé la question aussi. Oui. Qu'est-ce que vous aviez choisi vous ?
J'avais choisi un morceau de Nemo, qui est mon fils, et donc qui va bientôt sortir un album là et qui avait voilà, je voulais le faire écouter parce que prochaine fois il reviendra tout seul.
D'accord, c'est quel genre de musique que fait Nemo ?
Oh bah il chante en français, c'est des paroles très bien écrites sur ce qu'il vit. Donc il a 19 ans bientôt, pas. Et voilà, moi ça me touche parce qu'il est très romantique et puis en même temps assez lucide aussi sur son époque. Et voilà.
C'est vous qui l'avez appelé Nemo ou c'est un
pseudo? Oui, c'est son vrai prénom.
Comme le petit Nemo qui se réveille de ses...
Ah, comme le personnage de bande dessinée, voilà, on dit souvent le poisson, mais non, pas du tout, il est né avant.
Et
on a trouvé ça... Beau prénom, comme le capitaine Nemo aussi.
Bon, et ben on reparlera de Nemo dans Pop, je m'y engage, il sort son album.
En septembre.
Très bien.
C'est pas d'européen
avant les vacances, parce qu'on est toujours un peu en avance, vous savez. Bon. On va écouter, non pas Nemo, puisque l'album ne sort qu'en septembre, mais La Femme, Nouvelle-Orléans.
Nouvelle-Orléans, c'est un titre de La Femme choisi par Mathieu Sapin, mais il se trouve que pendant que nous écoutions La Femme, eh bien le standard d'Inter a littéralement explosé, et ça non, pas parce que vous avez branché votre USB dans le petit boîtier qui est devant vous, mon cher Morgan, parce que tout le monde exige d'entendre au moins quelques mesures du fameux Nemo.
On fait ce qu'on veut, on vit ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut pour vivre ce qu'on veut, rester heureux pour mourir vieux, mourir heureux et vivre au mieux, du mieux que je peux. Je me satisfais du peu que j'ai, du trop, du vrai, pourri, gâté, enfance ratée, collège passé.
Sourire fier du papa. Morgane, bravo, bravo.
Ouais, merci. Alors je tiens à dire que c'est un morceau qui est déjà vieux pour lui.
Dites-le-moi avec la voix de François Hollande, parce qu'il paraît que vous l'imitez à la perfection.
Je voudrais dire que je ne l'imite pas du tout très bien.
J'adore. Bon, merci à tous les deux. Mathieu Sapin.
Qui c'est qui vous a dit ça?
Morgane, bah devinez, Morgane Navarro, pour ses remarquables carnets de campagne édités chez Dargo. Absolument passionnant. Merci d'être venu. Merci à toute l'équipe de Pop 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 et à Thomas Langlin qui était à la technique aujourd'hui.